VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver en ce lundi 7 décembre 2015 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous. Le fil conducteur ce matin.
The threat from terrorism is real, but we will overcome it.
La menace terroriste est réelle. Le président américain Barack Obama promet de détruire le groupe État islamique, mais exclut une guerre au sol en Irak et en Syrie.
L'actualité en Afrique, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara.
Annonce d'un accord en Libye en vue de règlement politique du conflit.
Dans la partie magazine, plein feu sur ces chrétiens et musulmans centrafricains qui continuent de vivre ensemble dans certains quartiers de Bangui.
Depuis son arrivée, Salif et sa famille sont accueillis à bras ouverts.
Effectivement, nous vivons dans une famille où il y a une multitude de religions.
Ne manquez pas non plus la Minute Éco et le billet sportif.
Le président américain s'est donc engagé à traquer les terroristes partout où ils se trouvent. C'était lors d'une allocution solennelle à la Maison-Blanche hier soir. Barack Obama a qualifié de voyous et de tueurs les membres du groupe État islamique. 4 jours après une fusillade meurtrière perpétrée par un couple musulman radicalisé qui a fait 14 morts en Californie, M. Obama a tenté de rassurer la population tout en affichant sa fermeté.
So far, we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization over.
Pour le président Obama, il n'y a pour l'instant aucune indication que les tueurs aient été dirigés par un groupe terroriste depuis l'étranger. Mais il est clair, ajoute-t-il, que ces deux personnes avaient suivi la voie délétère de la radicalisation.
Monsieur Obama a appelé notamment les groupes de technologie à rejoindre la lutte contre l'État islamique à la propagande très active sur les réseaux sociaux.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Nous allons détruire le groupe État islamique et toute autre organisation qui chercherait à nous nuire, a assuré M. Obama, qui a appelé les musulmans à lutter contre les idéologies extrémistes. Les États-Unis ne se laisseront pas entraîner dans une guerre terrestre en Irak et en Syrie, a-t-il aussi dit. Une coalition dirigée par les Américains mène une campagne de frappe aérienne contre l'EI en Syrie et en Irak depuis plus d'un an.
Le président américain a enfin appelé le Congrès à légiférer pour renforcer le contrôle des armes individuelles, les tueurs de San Bernardino ayant facilement et légalement pu se constituer un véritable arsenal. Le président Obama s'est exprimé après s'être vu reprocher de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d'éviter le bain de sang commis par Syed Farouk et Tashfin Malik.
Ce couple, disposant de fusils d'assaut, de milliers de munitions et d'engins explosifs, ont arrosé de balles un déjeuner de Noël rassemblant des collègues de Farouk, faisant 35 victimes, dont 14 morts. Ils ont ensuite été abattus par la police.
Toujours dans l'actualité internationale, la police antiterroriste britannique a inculpé un homme de 29 ans pour tentative de meurtre après une attaque au couteau qui a fait 2 blessés dans une station de métro de l'est de Londres. Le suspect, Muhaydin Mireh, doit comparaître devant un tribunal aujourd'hui.
En France, le parti d'extrême droite, Front National, FN, est arrivé largement en tête lors d'élections régionales. Premier scrutin dans le pays depuis les attentats djihadistes meurtriers du 13 novembre. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, chef de l'opposition de droite, a exclu toute alliance avec la gauche au second tour pour contrer l'extrême droite. Le parti socialiste au pouvoir a annoncé son retrait du deuxième tour dans au moins 2 régions clés dans le nord et le sud du pays. Pour faire barrage à l'extrême droite.
Au Venezuela, l'opposition a remporté la majorité parlementaire pour la première fois en 16 ans, au terme d'un scrutin marqué par l'exaspération populaire face à la crise économique. Le président Nicolas Maduro a reconnu la défaite de son parti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un projet d'accord politique pour sortir la Libye du chaos a été annoncé hier par des représentants des 2 autorités rivales. Idriss Fall.
Ce texte a été négocié dans le plus grand secret au cours d'une réunion en Tunisie sans la participation de l'ONU. Selon l'AFP, les délégués se sont mis d'accord pour la formation d'un comité paritaire de 10 membres qui devra choisir un premier ministre et deux vice-premiers ministres d'ici 2 semaines. Un autre comité de 10 membres sera chargé d'amender la constitution de 1963. C'est la première fois que des représentants des factions rivales se rencontrent sans médiation extérieure. Les deux parlements, celui de Tripoli et celui de Tobrouk, devront entériner ce projet, ce qui n'est pas gagné d'avance. De son côté, Martin Kobler, nouvel émissaire de l'ONU en Libye, a souligné que seul le projet d'accord négocié au Maroc début octobre était capable de mettre fin au conflit. Ce texte prévoyait déjà un gouvernement d'union nationale, mais avait été rejeté par les deux parlements. Une conférence internationale sur la Libye doit avoir lieu le 13 décembre. Le pays vit dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et depuis un an, deux partis rivales se disputent le pouvoir, ce qui a aussi permis au groupe État islamique de gagner du terrain en Libye.
Au Burkina Faso, le tribunal militaire a inculpé le général Gilbert Diendéré de complicité dans l'assassinat en 1987 de l'ancien leader révolutionnaire Thomas Sankara, a annoncé dimanche le directeur du tribunal. Le général Diendéré fait déjà face à des accusations ayant trait à la tentative de coup d'État perpétrée contre le gouvernement de transition en septembre dernier. Le directeur du tribunal, le colonel Sita Sangaré, a confirmé la nouvelle à l'Associated Press hier. Un membre de la famille Sankara, Mousbila Sankara, a déclaré que l'accusation avait été portée contre le général la semaine dernière, mais n'avait pas encore été rendue publique.
Le président rwandais Paul Kagame a rompu le silence hier à Kigali. Il a reproché à la communauté internationale de s'immiscer dans les affaires rwandaises en critiquant le projet de révision de la Constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2017. Jean-Roger Billon.
Nous pouvons être bons amis, nous pouvons convenir d'être en désaccord, a lancé M. Kagame hier à Kigali. Il a même proféré une menace à peine voilée en disant que si vous voulez obtenir quelque chose de moi en me prenant de haut, vous pouvez être sûr à 100% que vous ne l'obtiendrez pas. Soyez sûr que vous aurez l'inverse. Le Parlement rwandais a adopté le 17 novembre un projet de révision de la Constitution qui doit encore être soumis à référendum. Ce projet permet à M. Kagame de se représenter en 2017. L'homme fort de Kigali n'a pas encore affiché clairement ses intentions. Il avait jusqu'ici indiqué qu'il ne se représenterait en 2017 que s'il était plébiscité par son peuple. Hier, il a répété aux membres de son parti que sa décision serait basée sur le résultat du référendum, dont la date n'est pas encore connue. Washington, soulignant que personne n'est indispensable, a déjà appelé M. Kagame à quitter le pouvoir à la fin de son mandat en 2017. De son côté, l'Union européenne estime qu'une réforme menée dans l'intérêt d'un seul individu perdait en crédibilité.
En République centrafricaine, réaction du gouvernement de transition à la déclaration du chef du FPRC, Noureddine Adam. La semaine dernière, l'ex numéro 2 de la coalition Séléka avait indiqué qu'il n'y aurait pas d'élection dans les localités du nord du pays sous son contrôle. Hier dimanche, le porte-parole du gouvernement a qualifié ses propos de déclaration de guerre au peuple centrafricain.
Un mois après l'état d'urgence décrété dans la région du lac Tchad, considéré par le gouvernement tchadien comme principale porte d'entrée de la secte Boko Haram, cette partie du pays a été secouée par 3 explosions kamikazes avant-hier en plein marché hebdomadaire de Koulfoua, une localité située dans les îles du lac Tchad. Les autorités tchadiennes font état d'un bilan de 19 morts alors que des sources indépendantes parlent de 27 victimes. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
3 kamikazes ont fait exploser leurs charges respectivement au marché central, au marché de poissons et dans une ruelle de cette localité située dans les îles du lac Tchad. Selon des sources indépendantes, ces attentats ont fait environ 27 morts, dont 3 kamikazes et plus de 80 blessés. Dans un communiqué officiel, le gouvernement tchadien donne un bilan de 19 morts, dont 4 kamikazes et 130 blessés. Ce triple attentat suicide a eu lieu au moment où la région est sous le régime de l'état d'urgence institué à l'issue du Conseil extraordinaire des ministres tenu le 9 novembre 2015. Cette mesure est accompagnée par des actions de développement socio-économique dont les principaux sont l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation. Le président de la République a instruit son ministre des Finances de mettre immédiatement à la disposition des ministres de tutelle une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Au premier ministre chef du gouvernement d'accorder une attention particulière au dossier administratif des ressortissants de la région du lac. À en croire le président Déby, ces mesures visent à lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays considérée comme principale porte d'entrée de la secte Boko Haram. Ces explosions qui ont endeuillé une fois de plus les familles tchadiennes montrent que la secte Boko Haram, quoi qu'on dise, qu'elle est décapitée, constitue une menace réelle pour la population civile. André Koduma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Maintenant, un tour d'horizon de l'actualité économique. Ce matin, c'est Eric Manirakiza que nous retrouvons.
Intertech, prestataire de services de qualité de premier plan pour un large éventail de secteurs dans le monde, a soutenu les acteurs de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire en déployant des connaissances d'experts sur la santé des sols et l'agriculture durable, ainsi que sur la gestion des cultures dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne au cours de l'année 2015, une région à forte potentialité agricole et clé pour les services agricoles pré- et post-récolte d'Intertech. En Centrafrique, les éleveurs musulmans de Bangui ont improvisé un abattoir clandestin en plein air et ne manquent pas de slogans alléchants « Essayez voir ». Les prix varient habituellement de 300 000 à 600 000 francs CFA pour un bœuf bien gras. Les peaux sont vendues au Nigeria qui fabrique de nombreux produits manufacturés. L'élevage et le commerce des bovins faisaient vivre jusqu'en 2012 près de 300 000 personnes. Cette activité dépassait même les 10% du PIB dans les années 2000, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO. En Côte d'Ivoire, le commissaire européen au développement, Neven Mimica, a affirmé à Abidjan que la politique de coopération de l'Union européenne va cibler les racines de la migration illégale qui pourrait affecter la Côte d'Ivoire. L'absence de croissance économique inclusive qui apporte de l'emploi aux populations constitue un terreau fertile pour les mouvements migratoires illégaux et aussi pour le recrutement par des réseaux terroristes.
Merci Eric. Sans plus tarder, les nouvelles sportives avec aux commandes ce matin Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jacques.
Le foot pour commencer, on connaît les affiches des demi-finales de la CAN des moins de 23 ans.
Le Sénégal affrontera le Nigeria et l'Algérie jouera elle contre l'Afrique du Sud. Algériens et Nigériens ont obtenu leur billet pour le dernier carré après leur nul 0-0. Un résultat dont n'a pas profité l'Égypte battue par le Mali 1-0. Les deux demi-finales auront donc lieu mercredi prochain. Pour rappel, les trois premiers de cette compétition iront à Rio l'an prochain.
Le foot, c'est aussi la coupe de la CECAFA, le Rwanda, battu une nouvelle fois en finale par l'Ouganda.
Battu par sa bête noire, Jacques, défaite 1-0, but inscrit à la 15e minute de jeu par César Okuti. C'est la 6e fois d'affilée que les Rwandais s'inclinent en finale de cette coupe de la CECAFA, la 4e fois consécutivement face à l'Ouganda. La 3e place de ce tournoi, qui a réuni les nations de l'Est et de l'Afrique centrale, a été obtenue par l'Éthiopie, vainqueur du Soudan au tir au but, 5-4, un but partout après le temps réglementaire.
Supercoupe de la Guinée et la AS Kaloum remporte son premier trophée de la saison.
Le vainqueur de la dernière coupe nationale a battu après la séance des tirs au but le champion guinéen en titre, le Oroya. Les deux équipes n'ont pas pu se départager après les 90 minutes de jeu 0-0. Et c'est à l'issue des tirs au but que la AS Kaloum a pris le dessus 5-4 à une semaine de la reprise du championnat. Par contre, en Côte d'Ivoire, le championnat est à sa deuxième journée et le match au sommet entre l'Africa Sport et la SEC n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Score final donc un but partout, ce qui n'arrange pas les Mimos qui totalisent deux matchs nuls. Les Aiglons, eux, comptent 4 points.
Au Cameroun, Coton Sport a un nouvel entraîneur.
Il s'agit du Français Lionel Sokoya. Il va bientôt remplacer un autre Français, Didier Daroussa Gomez, parti au CS Constantine d'Algérie. Sokoya, ancien entraîneur du club gabonais CF Mounana, est attendu à Garoua pour finaliser les modalités de son contrat avant le démarrage du championnat camerounais prévu le 9 janvier.
Handball avec les débuts difficiles des nations africaines au championnat du monde féminin.
Un championnat qui se déroule au Danemark et deuxième défaite de rang pour la Tunisie, battue cette fois par le pays hôte 32-20. Second revers également pour les Angolaises qui se sont inclinées devant les Hollandaises 37-24. La République démocratique du Congo, battue lors de son premier match, tentera de réagir face aux championnes du monde brésiliennes. Et puis avec vous Jacques, les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, championnat nord-américain de basketball.
Oui Élisée, court programme hier soir car seulement 5 matchs étaient à l'affiche. La plus alléchantes, les Warriors de Golden State face aux Nets de Brooklyn. Les Warriors ont amélioré le record en signant un 22e gain d'affilée en amorce de saison, 114-98, aux dépens des Nets. Les autres résultats, Phoenix battu par Memphis 93-95, victoire des Detroit Pistons face aux LA Lakers 111-91, défaite des Washington Wizards face aux Dallas Mavericks 104-116 et Oklahoma a battu Sacramento 98-95. Voilà donc pour le journal. Vous êtes bien branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide de retour avec vous. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine du Monde. Aujourd'hui, eh bien, la situation au Burundi continue de se détériorer avec des actes de violence au quotidien et l'impasse entre le gouvernement et les partis d'opposition. Timothée de Nangmaï a discuté de la crise burundaise avec Aimé Maguera, porte-parole d'Agathon Rwasa, leader des Forces nationales de libération, les FNL.
Il faut peut-être un peu nuancer, puisque l'opposition n'a jamais reconnu Rwasa en tant que leader de l'opposition, puisque dans cette opposition aussi, je crois que si on parle de la démocratie, il faut que aussi pratique la démocratie. Lorsque c'est lui qui est le plus ou moins fort dans cette opposition, il n'a jamais été reconnu. Je me rappelle même à Kayanza, tout le monde était d'accord de soutenir le pouvoir, de soutenir le CNFDD pour violer la constitution et afin de l'empêcher d'obliger la présidence d'être candidat à présidentiel, puisqu'ils ont confirmé, ils ont appuyé le CNFDD pour imposer une condition pour écarter M. Rwasa.
Aujourd'hui, le Burundi est en pleine tourmente. Qu'est-ce que M. Rwasa propose par rapport à cette situation?
Bon, je crois que M. Rwasa, c'est la pièce maîtresse pour un dénouement de la situation. Donc nous estimons qu'on doit s'asseoir sur la table de négociation d'une façon inclusive. Et aucun Burundais doit être mis à l'écart. Bon, je crois qu'il y a les plus importants dans cette politique burundaise. Je crois que ce qu'on propose, c'est qu'on s'assoit autour d'une même table, on décide un gouvernement de transition moyennant la situation qui prévaut, mais qui ne dépasse pas quand même une année, puisque nous estimons que toute légitimité doit revenir au peuple. C'est le peuple qui doit décider, c'est-à-dire le temps de stabiliser la situation, le temps d'arrêter l'hémorragie qu'on observe aujourd'hui, et le temps de faire, d'inciter la population de rentrer chez eux. Donc il y a beaucoup de réfugiés dans les pays limitrophes. Et la société civile fonctionne pour permettre la société civile de fonctionner, et là aussi les partis politiques ainsi que les médias.
Il est clair que le camp du président Nkurunziza exclut toute transition sans M. Nkurunziza.
Bon, de toute façon, Nkurunziza n'est pas légal parce que la constitution est claire, la Côte d'Arusha est claire. Hein. Il ne devait pas faire un troisième mandat. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, il doit mesurer les conséquences. Il doit assumer ce qui va arriver. Bon, maintenant, nous avons des informations fiables et sûres que M. Rwasa est ciblé par de tous les côtés. Donc, si une situation arrive, je crois que Nkurunziza va répondre. Alors, une transition sans ou avec, mais il faut qu'il accepte au moins une discussion. Il faut que nous soyons réalistes. Nkurunziza, il est président, mais il n'est pas président légal. C'est un président qui a violé la constitution. C'est un président qui ne répond plus aux aspirations des accords d'Arusha.
Aimé Maguera, porte-parole d'Agathon Rwasa, leader des Forces nationales de libération du Burundi. En Mauritanie, Biram Da Abeid, militant anti-esclavagiste, est en prison depuis plus d'un an. Il a été arrêté près de Rosso, puis transféré à Nouakchott, puis à Aleg, avant d'être ramené dans une prison de la capitale. L'arrestation de ce militant a été plusieurs fois dénoncée par les États-Unis. Idriss Fall revient sur le dossier Biram Da Abeid avec Bala Touré, un membre du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, actuellement en visite aux États-Unis sur invitation du département d'État. Nous écoutons Bala Touré.
Ibrahim est en prison depuis le 11 novembre 2014, quand il a été arrêté à Rosso. Il a été jugé avec son vice-président, Brahim Lubilel, et condamné à 2 années de prison ferme. Après la condamnation, sur le champ, sa défense a fait appel de la décision. Donc, ce jugement devrait être fait en appel au niveau de la cour d'appel de Nouakchott. Mais à notre grande surprise, dès le soir, les prisonniers ont été transférés de façon illégale à Aleg, qui n'est pas du ressort de la cour d'appel de Nouakchott.
Mais aux dernières nouvelles, il a été ramené aussi à Nouakchott, nous dit-on.
Oui, il a été ramené à Nouakchott après qu'il ait séjourné à la prison d'Aleg pendant plusieurs mois. Et cela aussi a été fait contre toute attente, puisque là aussi, c'est une violation grave. Finalement, on a des prisonniers d'opinion qu'on trimballe d'une circonscription à une autre.
IRA est l'une des associations qui lutte depuis longtemps contre l'esclavage. Et dans le même temps, le Parlement, le gouvernement adopte des lois pour durcir la répression contre l'esclavage. Ça n'est où ?
Quand de loin, on observe la Mauritanie, on voit que c'est un pays, ce sont des autorités qui s'attellent à prendre des mesures pour éradiquer totalement l'esclavage. La loi de 2007 criminalisant l'esclavage a été réaménagée et les peines désormais qui sont encourues pour les esclavagistes sont devenues plus sévères. Il y a eu aussi l'institution d'une cour spéciale de justice qui s'occupera des crimes d'esclavage. Il y a eu l'agence Tadamoun, qui est une agence chargée de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Mais parallèlement à tout cela, au lieu que les présumés esclavagistes se retrouvent devant la justice, ce sont les défenseurs des droits de l'homme, les militants d'IRA Mauritanie, leur président, leur vice-président, qui se retrouvent devant les policiers, devant les juges et qui encourent des peines de prison. Donc on se demanderait alors pourquoi tous ces aménagements au niveau étatique. Nous pensons, et les observateurs sont d'accord avec nous, qu'il s'agit juste d'opérations de charme à l'adresse de la communauté internationale qui demande plus de rigueur à la Mauritanie.
Bala Touré du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, de passage à Washington DC. Retour en République centrafricaine où malgré les nombreuses violences intercommunautaires de ces deux dernières années, musulmans et chrétiens continuent de vivre ensemble dans certains quartiers de la capitale. Notre correspondant Freeman Sipila a rendu visite à la famille Fall, exemple d'un véritable vivre ensemble dans le deuxième arrondissement de Bangui.
Depuis le déclenchement de la crise dans le 6e arrondissement, Salif Fall, son épouse Nafissatou et leurs deux filles ont regagné le domicile familial de Salif à la Kwanga dans le 2e arrondissement. Ici, musulmans, chrétiens et animistes vivent ensemble. Depuis son arrivée, Salif et sa famille sont accueillis à bras ouverts et vivent en parfaite harmonie avec les autres.
Effectivement, nous vivons dans une famille où il y a une multitude de religions. Parce que notre père nous a mis total 35 au monde, dont figurent les musulmans et les chrétiens, diverses religions, apostoliques, catholiques et autres. Là, on vit en parfaite harmonie jusqu'à ce jour. Dans la famille, on reste toujours une famille soudée, on se soutient mutuellement. Les musulmans et les chrétiens.
Fatouma Toufal, la sœur cadette de Salif, est chrétienne. Très tôt ce dimanche matin, elle est partie à l'église comme l'explique Salif.
Présentement, nous ne sommes que des musulmans ici à l'intérieur et qu'une sœur chrétienne. Et elle est déjà partie à l'église ce matin.
Comment vous priez puisqu'il y a des musulmans, des non-musulmans dans une même maison?
Bon, chacun suit son rite. Nous sommes des musulmans, on prie. Bon, on ne se mêle pas de religion des autres. Chaque question son chemin.
Aujourd'hui, le PK5, un grand quartier musulman du 3e arrondissement, est considéré comme la dernière enclave musulmane de Bangui. Salif dit le contraire.
Ça, moi, je n'ai jamais vécu assez à PK5. Je suis toujours à la Kwanga. J'étais vers Fatima et puis, vu les événements, comme là-bas, ils ne comprennent pas, je suis obligé de irriguer là où je suis né. C'est pas tous les musulmans qui vivent en kilomètre 5.
Assise sur une chaise à droite, Rekia Fall, une autre sœur de Salif, explique comment la famille s'organise en temps de crise.
Bon, nous sommes dans une famille élargie, donc on se protège à chaque fois. Si quelqu'un sent quelque chose de mal qui veut arriver dans notre famille, on se protège, on fait des signes et puis... Donc, il n'y a pas de problème entre nous.
Dans votre quartier, vous vivez en parfaite harmonie avec vos voisins?
Sans problème. Nous sommes nés ici. Ils nous connaissent de comportement et de caractère. Donc, il n'y a pas de problème. On se déplace même là où on veut. Et puis, ce sont nos voisins qui nous protègent à tout moment.
Un peu à l'écart, Boubacar Fall, le père de la famille, un peu remonté, lance depuis son fauteuil noir. À notre époque, nous étions éduqués par des Blancs. On ne connaissait ni religion, ni ethnie. Tout ce qu'on savait, c'est que nous sommes noirs et africains. Cet exemple de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans n'existe pas que dans la famille Fall, à la grande boulangerie de PK5. Malgré les nombreuses violences intercommunautaires, musulmans et chrétiens continuent de travailler ensemble. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Une décision qui fait grincer des dents au Bénin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAAC, a décidé de réglementer la diffusion de toute information pendant la campagne électorale. Pour l'organe de régulation, il s'agit d'assainir le paysage médiatique afin qu'il y ait moins de dérapages durant la période préélectorale. Mais les professionnels des médias, tout comme certains politiciens, ne l'entendent pas de cette oreille. Depuis Cotonou, les différents sons de cloche avec notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Dans le rang des observateurs de la vie politique, même si on reconnaît la légitimité de la décision, elle est jugée tout de même sévère et partisane.
Ceux qui animent véritablement la vie publique, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour, disons, mettre leur cellule, leur section en branle le moment venu.
Par quels moyens les populations peuvent connaître nos potentiels candidats?
Ça a commencé depuis. Je ne vois pas pourquoi c'est maintenant seulement que la HAAC prend cette décision. Elle aurait pu se taire, c'est-à-dire laisser faire et après prendre des décisions pour corriger.
Les organes de presse profitent souvent des périodes préélectorales pour se refaire une certaine santé financière. Les responsables de certains quotidiens parlent d'une injustice, une décision qui pourrait empêcher les professionnels des médias d'exercer en toute liberté et qui étudent leur métier.
C'est une décision qui porte atteinte au droit du public d'avoir accès à l'information.
Je ne sais pas si cette HAAC, c'est une volonté d'innover, mais si la HAAC veut innover, mais elle n'a qu'à innover dans le bon sens. Il nous revient, nous autres médias, d'informer la population sur les candidats. Pour une élection objective et un choix rationnel, il faut que d'avance les médias informent la population des candidats, de leur parcours politique, de leur vision et autres là. Maintenant, si on nous empêche de parler des candidats, mais alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je crois que c'est un genre d'exclusion et d'injustice. Nous, organes de presse, nous vivons de ça. Nos ressources sont liées à nos activités médiatiques sur le terrain. Si on ne doit pas en parler, nous allons seulement publier les inaugurations de puits, de ponts, de maternités, des ministères et autres, tout ça. Ça va nous rapporter quoi?
Il y a le droit du public à l'information. Et la HAAC est là pour faire respecter cela aussi. Si les médias ne doivent pas parler des candidats avant les 2 semaines de campagne, sur quelle base les électeurs pourront-ils choisir le prochain président de la République?
Dans le cadre de la mise en œuvre de son rôle de régulation, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prévoit prendre des sanctions contre les organes qui ne respecteraient pas cette décision. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VOA Afrique.
Coup de projecteur maintenant sur le rapport sur l'état de la population mondiale vulnérable 2015, un rapport lancé à Sido, ville frontalière entre la Centrafrique et le Tchad. André Kodmajingar.
C'est au rythme de cette chanson que la délégation a été accueillie sur le site par la population dite vulnérable au lancement de ce rapport intitulé « À l'abri dans la tourmente, un programme porteur de changement pour les femmes et les filles dans un monde marqué par les crises ». Selon le directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabinge Ngom, plus de 100 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire cette année contre 88 millions en 2014. Pour lui, en dépit des progrès remarquables observés dans l'offre des services ciblant les femmes et les adolescentes dans le contexte humanitaire, beaucoup reste à faire en termes de financement.
Notre rapport 2015 nous invite à avoir un regard critique sur l'aide humanitaire que nous apportons aux populations affectées. L'année dernière, pour chaque dollar affecté à l'assistance humanitaire, 60 centimes sont allés au secours d'urgence, 35 centimes à la reconstruction et au rétablissement et 5 centimes seulement à la préparation aux catastrophes et à l'atténuation de leurs effets. Je pense que nous devons faire en sorte que nous renforçons cette dernière composante de l'action humanitaire. La prévention coûte beaucoup moins cher que la réponse.
Pour le coordonnateur humanitaire représentant résident du PNUD Stephen Toole, ce rapport est une occasion pour le système des Nations Unies de rappeler la nécessité de protéger et d'être solidaire avec des personnes les plus vulnérables au monde. Le premier ministre tchadien Kalzebe Paimi Debe lance un appel à la communauté internationale de continuer à œuvrer pour la paix en République centrafricaine afin de favoriser le retour de ces réfugiés.
Au regard du nombre important et sans cesse croissant des personnes en besoin urgent d'assistance, notre pays seul ne pourra continuer à supporter cette lourde charge C'est pourquoi je lance un vibrant appel à nos frères de la RCA et aux partenaires au développement qui les assistent de continuer à œuvrer pour la consolidation de la paix. La paix est désormais à la portée du peuple centrafricain.
Le Fonds des Nations Unies pour la population justifie le choix porté sur la Grande Sido pour le lancement de ce rapport du fait qu'elle est le symbole régional de la souffrance des populations affectées par les crises humanitaires, y compris les conflits en 2015. André Koduma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. Anne Albertson a dirigé la mise en onde, à la technique Jimmy Cook. Merci chers amis fidèles de la VOA pour votre attention. Très bon début de semaine. Rendez-vous demain matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Take care.